Bonjour, c'est Fred. Donc vous êtes bien dans l'émission Combien de temps encore sur CFM Radio, émission consacrée à la défense de la cause animale. Alors aujourd'hui, je reçois Laurent Baheux. À la suite des deux émissions précédentes, j'avais reçu Audrey Jouglat, donc qui est philosophe, qui a fondé l'association Animal Testing contre l'expérimentation animale. Donc je reçois Laurent Baheux parce que ils ont écrit ensemble un ouvrage qui s'appelle Animalité, et Laurent Baheux est le photographe qui a proposé ses photos sur l'ouvrage. Donc il est photographe animalier. Bonjour Laurent Baheux. Donc merci déjà d'avoir accepté cet entretien. Et donc vous êtes photographe animalier. Alors je vous invite à l'occasion, mais on va parler de vos autres travaux. Je vous invite donc à l'occasion de Animalité, l'ouvrage que vous avez publié avec Audrey Jouglat, qui était là aux émissions précédentes. Alors je vais commencer par une phrase qui pour moi est vraiment très importante. Plutôt que d'indigner nos lecteurs en agitant la violence subie par les animaux, nous avons privilégié un parti pris esthétique. Montrer le beau pour combattre le laid. Alors voilà, donc vous êtes photographe animalier. Par rapport à cette phrase-là, comment qu'est-ce que vous pourriez nous la préciser ?
Bonjour à tous. Merci pour cette tribune et pour cette invitation. Qu'est-ce que je peux dire sur le parti pris esthétique, on va dire, parce qu'effectivement, moi, j'envisage mon métier comme un peu un tremplin pour servir la cause animale. En tout cas, ça me donne une tribune pour parler de cette cause. Et j'ai fait le choix, effectivement, du parti pris esthétique. Alors oui, ça me parle, ça, choisir le beau pour dénoncer la laideur de nos comportements vis-à-vis de la cause animale, parce que c'est vrai qu'on se sert de tous ces animaux, qu'ils soient sauvages, d'élevage ou domestiques. On a du mal à avoir nos rapports avec l'animal autrement que par l'intérêt qu'on peut y trouver. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Il faudrait peut-être revoir un peu notre façon d'appréhender ces autres espèces.
Et leur redonner leur place d'individu, parce que vous parlez des animaux justement de compagnie, et très souvent on a tendance à entendre que eux ça va, alors que c'est pareil, hein, c'est pas vraiment un échange, le rapport qu'on a avec eux. Très souvent c'est on a besoin d'eux parce qu'on a un besoin affectif, mais est-ce qu'on les considère vraiment sur un échange d'individu à individu? Même les animaux dits de compagnie ne sont pas forcément si bien n'ont pas leur place d'individu, la place qu'ils devraient avoir, en fait.
Oui, on peut se poser la question, d'autant que effectivement, on aime bien les catégoriser comme ça, ces animaux, y compris les animaux domestiques. Mais il y a certaines dérives qui sont assez nombreuses autour de l'animal domestique, hein. C'est souvent pour assouvir nos propres intérêts plutôt que de prendre en considération la qualité de vie ou les conditions de vie de toutes ces espèces qui nous entourent.
Et alors moi, ce qui m'intéressait, voilà, justement aussi au niveau de votre parcours, déjà la question. Et moi, je trouve que ça donne beaucoup, beaucoup de densité à vos photographies. Alors, je vais vous poser la question, pourquoi ce choix esthétique du noir et du blanc?
Alors ça fait partie de mon histoire avec la photographie. Alors, ça dépasse le simple choix esthétique, j'espère en tout cas. Mais en fait, dès le départ, je ne me suis pas posé cette question, parce que moi, j'ai fait tout mon tout mon apprentissage. J'ai tout appris de la photographie à une époque où on était encore en argentique, avec où on mettait des films dans les boîtiers. Donc au labo argentique où je tirais mes images depuis un négatif. Et voilà, un négatif noir et blanc, puisque quand j'ai commencé dans la presse, on me donnait surtout du film noir et blanc. C'était moins coûteux, et puis je réalisais des tirages en noir et blanc. J'ai un peu tout appris de la lumière de cette expérience-là, du labo argentique. Et ensuite, j'ai basculé assez tôt sur le numérique, lorsque le numérique a été exploitable professionnellement, c'est-à-dire très vite au début des années 2000. Mais je suis content d'avoir eu cette pratique un peu à cheval entre ces deux mondes, on va dire, entre ces deux univers, la photo argentique et la photo numérique, parce que oui, ça m'a beaucoup appris de la lumière, et du coup j'ai gardé ce goût-là, c'est-à-dire que je suis tombé dedans à mes débuts en photographie, et ensuite, quand je me suis intéressé à l'histoire de la photographie, je me suis rendu compte qu'en fait la photo avait tout simplement été inventée en noir et blanc, que ça on avait un petit peu oublié déjà, et que quand on s'intéresse à l'histoire de la photographie et qu'on se plonge dans les archives du XXe siècle, pendant les trois quarts du XXe siècle, on tombe sur les travaux des grands maîtres de la photographie qui ont illustré tout le XXe siècle, et c'est encore une fois que des archives en noir et blanc. Donc je trouve qu'on a la mémoire assez courte en termes de photographie. Il suffit de se retourner et de se pencher sur ce qu'ont fait nos illustres aînés pour s'apercevoir que le noir et blanc est très très présent et qu'il s'impose en photographie dans de nombreux cas, quoi.
Et puis, je suis beaucoup plus sensible au noir et blanc, parce que surtout dans vos photos. Alors c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment flagrant par rapport à votre travail photographique, c'est qu'il y a une intensité qui est donnée par le travail sur les gris et sur le contraste. Qui donne une intensité à la photo, qui en même temps la rend presque symbolique. Enfin, il y a une notion de distanciation par rapport à la réalité. Je pense que pour moi, en tout cas, le noir et blanc est un des plus beaux moyens de rendre ce côté intense et profond. Bon, après. Sans doute qu'on peut y arriver par la couleur, hein, mais disons que moi je suis beaucoup plus sensible au noir et blanc, parce qu'il y a cette profondeur, cette densité, cette noblesse de l'animal qui est révélée, c'est le cas de le dire, par ce travail sur les gris, sur le contraste, et qui à mon avis prend encore plus de force avec le noir et blanc.
Ouais, je crois que moi ça me parle, hein, ce que vous dites, évidemment. Pour ma part, je crois que tout simplement on va plus facilement renforcer le côté intemporel de l'image. Voilà. Mon travail, notamment mon travail sur l'Afrique, est vraiment dans cet esprit-là. C'est-à-dire que j'ai voulu un peu montrer l'Afrique éternelle, entre guillemets, l'Afrique qu'on ne peut pas dater, l'Afrique qui a toujours existé dans l'imaginaire collectif et encore par petits morceaux aujourd'hui, les derniers morceaux de cette Afrique éternelle, cette Afrique sauvage qui perdure, en tout cas au moins dans l'imaginaire. Et voilà, c'est vrai que le noir et blanc aide à renforcer cette intemporalité, on va dire.
Ouais, oui.
Et puis peut-être dramatise aussi un petit
peu.
Ça. Voilà, il y a tout ça derrière, mais c'est vrai que c'était un choix qui s'est vraiment imposé de manière très naturelle de par mon parcours.
Et vous travaillez beaucoup sur les gris. Vous utilisez des filtres, ou parce que quand on est en argentique, on peut travailler sur le temps sur les bains, mais en numérique, c'est des filtres.
C'est un peu pas.
Non,
d'accord. Pas de filtre, mais c'est un peu pareil en fait. Hein. C'est-à-dire que le travail qu'on réalisait au labo argentique, où on développait ces tirages sous l'agrandisseur et où on exposait par rapport aux densités, où on pouvait masquer un peu certaines zones, etc. Ouais. Ce travail-là, aujourd'hui, il est beaucoup plus facile à faire et beaucoup plus confortable est moins polluant et moins coûteux aussi. On le fait aujourd'hui sur un écran. Hein. Voilà, il y a des outils logiciels qui permettent de développer dans cet esprit-là, dans l'esprit de l'argentique en fait. Et c'est ce que moi j'utilise hein, de manière assez simple et assez intuitive. Mais l'expérience que j'ai eue de l'argentique. Bah, je l'ai un peu transposé à ma pratique numérique, enfin même complètement, pour avoir un peu toujours ces mêmes rendus de noir et blanc, cette densité de noir. Moi, quand je tirais en argentique, j'aimais déjà les papiers, les grades élevés, les papiers très denses, très contrastés, avec des noirs très profonds. Ouais. Voilà, j'ai vraiment gardé ce goût-là et aujourd'hui, j'ai transposé cette pratique-là, à ma pratique numérique, rien de plus, quoi.
D'accord.
Voilà.
Après, par rapport au travail de photographe en lui-même, après on reviendra plus hein, sur la cause animale, mais comment vous arrivez à on a l'impression sur beaucoup de photos que vous arrivez à trouver le moment où l'animal, on a presque l'impression qu'il pose. Il est dans une majesté, dans une. Alors, est-ce que vous restez très longtemps à l'affût? Est-ce que comment ça se passe? Ou est-ce que parce que c'est étonnant en fait.
Alors, je pense que c'est une question de temps effectivement en partie. D'une part, c'est ça. C'est vraiment ce. Moi, je me paye le luxe de prendre mon temps. C'est-à-dire que je vais vraiment. Je vais vraiment approfondir le sujet. Quand je vais faire une rencontre avec un lion ou un clan de lions ou un troupeau d'éléphants ou n'importe quel animal, une hyène, tous les animaux de la savane que je vais pouvoir croiser, je vais prendre mon temps pour essayer de réaliser une image qui va, moi, me toucher, faire passer une émotion où je vais avoir soit réussir à capter le regard de l'animal, effectivement, comme s'il posait pour moi. Bon, il ne pose pas pour moi, malheureusement, oui. Pas encore. je ne suis pas très connu dans la savane, voilà, mais malheureusement, non, je rigole, mais voilà, j'essaye de prendre le temps qu'il faut, et en fait, on me pose souvent cette question-là, mais ça ne représente pas un effort pour moi de passer autant de temps, parce que je le fais avec beaucoup de passion et je m'amuse beaucoup, donc je ne me rends à la limite même pas compte du temps que je vais pouvoir passer avec un même animal. C'est-à-dire que à partir du moment où je vais suivre un lion et où il tolère ma présence sans que je le dérange et qu'il accepte ma présence et que j'arrive à un peu tourner autour pour choisir un angle, ou que lui, parce que c'est lui qui, pour habitude de dire que c'est l'animal qui choisit la rencontre, qui choisit l'instant, qui choisit le moment, qui choisit de rencontrer le photographe et non pas l'inverse, puisque lui, il est libre et sauvage dans son environnement naturel, et s'il a envie de partir, de fuir, d'aller ailleurs ou de se cacher, moi, je pourrais rien contre ça. Donc, c'est vraiment l'animal qui accepte la présence du photographe et qui choisit la rencontre, la distance, etc. Alors, je peux essayer de m'approcher un peu sans le perturber, voir comment il réagit et s'il accepte ou pas. Et puis après, bah voilà, je vais passer du temps à attendre une attitude, parce que souvent, en plus, quand on trouve les lions, par exemple, qui est quand même l'animal emblématique de l'Afrique, on les trouve souvent endormis durant la journée. Donc, il faut souvent attendre longtemps avant qu'ils soient actifs, voilà, avant qu'ils lèvent la tête, avant qu'ils se relèvent. Voilà, donc c'est un jeu de patience, on va dire, mais pour moi ça représente pas un véritable effort parce que je suis dans mon élément, parce que j'adore passer du temps voilà au milieu des animaux sauvages et que je prends beaucoup de plaisir. J'ai répondu à la question.
Oui. on va juste faire une pause musicale et on reprend tout de suite après l'entretien.
Ça marche.
Mes amis, mes très chers amis, où avez-vous bien pu passer? Sur quelle plaine, dans quelle vallée? Sur quelle montagne, sur quelle jetée? Oh, mes amis, perdus de vue, loin du cœur, loin du corps, à la vie, à la mort, et au changement de décor. Peut-être bien qu'on s'adore encore. Faites-vous encore quelques rêves? Vous êtes-vous endormi dessus? Êtes-vous content de votre sort? Se verra-t-on au bar des sports? On s'est mis perdu de vue, loin du cœur, loin des corps, à la vie, à la mort et au changement de décor. À la vie, à la mort et au monde qui s'évapore. À la vie, à la mort, peut-être bien qu'on s'adore encore. Peut-être bien qu'on s'adore encore. Peut-être bien qu'on s'adore encore.
Vous êtes bien sur CFM Radio dans l'émission Combien de temps encore, et on reprend donc notre entretien avec Laurent Baheux, photographe animalier. Oui, et justement quand vous parliez de votre rencontre avec les lions, est-ce qu'il vous arrive de... Alors déjà, vous disiez c'est lui qui accepte. Est-ce qu'il y a une distance où l'animal sent la présence du photographe, ou est-ce qu'il y a une distance, je dirais entre guillemets standard, mais ça doit dépendre aussi du vent, de la position, et à quel moment vous percevez que il a lui il s'est aperçu que vous étiez là, et comment ça se passe? Est-ce qu'il y en a qui, est-ce que vous avez des cas où l'animal est agressif, ou est-ce qu'il s'en va? Est-ce que vous revenez aussi plusieurs jours de suite sur un même groupe de lions ou d'éléphants? Voilà, comment ça se passe? Est-ce que déjà, est-ce que quand est-ce que vous percevez qu'il a qui sait que vous êtes là en fait?
Bah, à leur réaction, hein, les animaux savent que je suis là, me voient, voilà, c'est pour ça que je parle de se faire accepter et de déranger le moins possible. Les animaux me voient avant que moi je les voie.
Ouais, ouais.
Voilà, donc c'est vraiment une question de d'acceptation, parce que je suis sur leur territoire et j'essaie de perturber le moins possible leur quotidien. Voilà, donc de ne pas se procher trop près et de laisser l'animal choisir justement la rencontre ou pas.
Il y a des distances limites, par exemple pour le lion, est-ce qu'il y a une distance à ne pas franchir ou...
Bah oui, moi ouais. je vois souvent des touristes s'approcher trop près, ou des guides s'approcher trop près des animaux, ouais. Et on voit que ça les perturbe, mais en général, déjà à 15 ou 20 mètres, c'est déjà très près de l'animal.
D'accord.
Voilà. Donc moi, en général, je reste plutôt à distance respectable, plutôt 30, 40, 50 mètres, quoi. Ouais. Alors, j'utilise des gros téléobjectifs, qui me permettent d'aller faire des images de ces animaux-là à distance et tout en donnant l'impression de la proximité, mais oui, on voit, de toute façon, l'animal change de comportement. On le voit si vraiment on le perturbe, on le dérange ou on l'effraie. Et après, pour répondre à la question du danger ou de l'agressivité de l'animal, oui, ça m'est arrivé plein de fois. Et on apprend comme ça sur le terrain. Ça m'est arrivé de me retrouver trop près d'un troupeau d'éléphants et de me faire charger par la matriarche qui va défendre tout le troupeau et notamment les petits, parce que sans m'en apercevoir, je me suis retrouvé entre la matriarche d'un côté et puis d'autres membres du troupeau, des jeunes éléphants, et puis ça leur plaît pas, ça les stresse, ils ont l'impression qu'on vient les agresser, donc là très vite la matriarche vous fait comprendre que vous n'êtes pas le bienvenu et que vous avez intérêt à reculer si vous voulez pas avoir de problème. Donc, mais les animaux ne sont pas agressifs sans raison, en fait. Hein. C'est-à-dire que, en général, la plupart du temps, à part les prédateurs, évidemment, quand ils sont en position de chasser, où là, ils vont évidemment chercher à attraper un animal pour se nourrir. Un lion va chercher à piéger un zèbre ou un gnou ou un buffle pour le manger. Donc, ça, c'est radical. Mais sinon, il n'y a pas d'agressivité gratuite, j'ai envie de dire. Voilà, si on vient pas déranger les animaux, c'est très rare de se faire agresser, quoi.
Mais en général,
c'est souvent que... quand on envahit leur espace intime, leur espace privé, quand on rentre trop dans leur cercle de confort, de sécurité, où ils se sentent un peu envahis sur leur territoire, que là ils deviennent, pour se défendre, agressifs en retour, quoi. Mais sinon, par expérience, c'est toujours ce que j'ai vécu, quoi. Donc avec différents animaux, hein, ça marche de la même manière. Je me suis déjà fait charger par un hippopotame parce que j'étais descendu trop près au bord de la rivière et que c'est très territorial et que là vous avez un hippo mâle dans le bras de rivière qui va défendre toute la troupe d'hippos qui vit là, et qui va vous avertir en ouvrant grand la gueule et qui ensuite va vous charger carrément. Et un hippo, ça court très vite et tout ça. Donc vous êtes rappelé à l'ordre très rapidement et il faut s'en souvenir et ne pas recommettre l'erreur. Donc moi j'ai appris tout comme ça en fait, hein, parce que je suis pas un naturaliste à la base et c'est tous ces comportements là et toutes ces attitudes, je les ai découvertes sur le terrain, sur le tas, quoi, en photographiant. Donc il vaut mieux apprendre vite de ces situations là si on veut rester vivant, parce que sinon on fait pas le poids face évidemment à ces gros mammifères, gros animaux sauvages qui peuvent être du coup dangereux pour l'homme, mais parce que l'homme vient sur leur territoire. Hein.
Ouais.
Donc voilà ce que je peux dire de mon expérience.
Et donc on va reprendre un petit peu là justement sur l'optique de travail qui est de montrer le beau pour combattre le laid. Alors il y a aussi deux options. Il y a soit vraiment montrer l'animal dans toute sa beauté. Parce que ça donne quand même une bonne leçon à l'espèce humaine par rapport à cette noblesse qui émane quand même des photographies. Et je voulais lire aussi un passage. Je crois que c'est, voilà, je sais plus dans quel, si c'est sur votre site ou si c'était sur une interview, donc un passage de vous. Globalement, qu'il n'y ait aucune raison de privilégier les intérêts humains à ceux des animaux. Notre capacité à détruire nourrit cette prétendue supériorité sur l'animal. On se croit plus fort simplement parce qu'on peut détruire plus de choses. Et c'est un rapport de force qui était assez malsain. On devrait avoir de la bienveillance envers les espèces plus faibles, entre guillemets, que nous, et avoir un instinct de protection plutôt que de destruction. C'est ce qui m'attriste le plus et j'aimerais qu'à travers mon travail, l'homme change de regard sur la relation qu'il entretient avec l'animal. On a oublié qu'on était nous aussi des animaux et qu'on fait partie de cet ensemble. Si on le détruit, nous serons les premiers perdants, car sans environnement, nous ne pouvons pas survivre. Donc ça, c'était un passage, je sais pas si c'est pas sur votre site que je l'ai trouvé, mais justement sur cette prétendue supériorité de l'humain. Oui, donc la beauté comme source d'inspiration, qui permettrait peut-être enfin à l'espèce humaine de s'élever de sa nature humaine en fait pour évoluer vers des comportements plus dignes et plus respectueux. Voilà, on parlait au tout début de l'émission, vous parliez de nos rapports aux autres espèces animales et je pense qu'on n'est pas du tout dans le respect non seulement des espèces en elles-mêmes mais de l'individu, que chaque animal est un individu et que notre rapport, il devrait être fondé sur l'échange, sur un échange respectueux en fait. Et je pense que voilà, cette notion de beauté, alors il y a des vidéos au contraire qui vont dénoncer des choses très dures. Je pense que bon, c'est une façon importante de parler de la cause animale. Mais je crois que c'est très important aussi des photographes comme vous qui prenez le parti de dire bah nous on va plutôt montrer la beauté parce que peut-être que ça va engendrer un besoin de beauté et de respect chez l'espèce humaine nourrir un peu l'espèce humaine de quelque chose de bien, de beau. Voilà. C'était Vincent Munier qui dit aussi, qui dit la même chose que vous, hein, qui dit voilà, ça va peut-être un peu élever la nature humaine de lui montrer toute la beauté des espèces animales ou du vivant, quoi.
Bah, c'est ce que j'appelle de mes voeux, hein. On est en période de résolution et de bons voeux, donc c'est le moment. Mais chaque année, j'ai l'impression de me répéter un peu chaque année. Et je suis pas le seul, effectivement, à le dire et à essayer de le marteler. Mais c'est quand même important de continuer à faire passer ce message-là. Hein. Moi, je viens de faire ma carte de vœux là. Et dessus, je peux vous lire ce que j'ai mis une fois de plus, et ça va toujours dans ce sens-là. Dans ce sens-là, hein. C'est puisse l'homme se souvenir qu'il est un animal et qu'il n'est pas le seul animal à penser, à aimer, à souffrir ou à ressentir. Et comme tout animal, qu'il est dépendant de son environnement. Voilà. Et il faudrait juste se souvenir de ça, que nous sommes avant tout un animal, une espèce parmi tant d'autres. Un animal humain, un animal qui a bien réussi, hein, c'est sûr, mais si notre réussite consiste à avoir la mainmise et le pouvoir sur toutes les autres espèces pour les avilir et faire une démonstration de puissance, on va pas gagner grand-chose, je pense à ça, parce que on va seulement gagner la destruction de l'ensemble de notre environnement, mais en oubliant qu'on en fait partie. Voilà. Voilà, une fois qu'on aura scié la branche sur laquelle on est assis, ben on s'apercevra qu'on va tomber de haut, quoi.
Et puis, est-ce que l'espèce humaine a si bien réussi que ça? On peut se poser la question, parce que on est dans un tel confort matériel, dans un tel certains sont dans un tel une telle déconnexion totale avec ce qui les entoure, que on mettrait un humain dans une forêt en plein hiver, je pense qu'il est incapable de survivre. Donc est-ce qu'il a si bien réussi que ça?
Il a bien réussi à se couper de son environnement, à s'en protéger, mais du coup à s'en isoler, quoi. Malheureusement, effectivement, je crois que ce qui manque aujourd'hui à beaucoup, c'est cette connexion avec avec la nature, avec avec le vivant et avec notre environnement naturel. Plus ça va, plus la population s'urbanise, se concentre dans les grands centres urbains, voilà, et du coup les campagnes se désertifient, et puis on se coupe de cette nature et de ce milieu qui voit vivre d'autres espèces, alors que ce soit les espèces sauvages,
et puis qui nous est essentiel, c'est-à-dire on se coupe de ce qui est essentiel, donc beaucoup de personnes s'enterrent ou se sous des biens matériels, s'étouffent, mais en fait ils sont vides, parce que ce qui est vraiment essentiel, c'est peut-être tout simplement la beauté d'un arbre, cheminer à travers un sentier, voilà, c'est, et si ça on l'a, si certaines personnes n'ont plus ça, effectivement, à mon avis, il ne reste pas grand-chose, quoi. Et sauf que le problème, c'est qu'ils détruisent la planète en même temps. Donc, à la limite, moi, ce qui me pose problème, c'est que on n'a pas le droit de détruire notre planète, notre mère, la Terre, les espèces qui les entourent, qui habitent cette planète, qui nous entoure. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut que l'espèce humaine se remette sérieusement en question par rapport à son attitude et ça, c'est ce que vous dites, sa prétendue supériorité, parce qu'une espèce qui détruit sa propre planète, à mon avis, elle est supérieure en rien du tout.
C'est-à-dire qu'en plus, c'est un exemple unique, c'est-à-dire qu'on est la seule espèce à autodétruire notre environnement. On touche les limites effectivement de l'intelligence humaine. Ouais. À quoi mène cette intelligence à produire, à imaginer, à construire des choses, mais qui se retournent contre nous, finalement. Donc, oui, on touche là les limites de effectivement du succès de notre réussite, quoi.
Puis savoir qu'il y a plusieurs types d'intelligence, qu'il y a plusieurs types de logique. que chaque espèce, déjà chaque individu d'une même espèce n'a pas forcément le même type de logique ou d'intelligence, que les espèces entre elles n'ont pas forcément les mêmes, voilà. Et puis est-ce que c'est pareil, l'intelligence, si on parle de l'expérimentation animale ou de n'importe quelle façon de nous comporter avec les autres animaux. Si on prend le critère de l'intelligence, déjà il y en a plusieurs, donc à mon avis c'est pas un critère, et je pense que c'est même pas le bon critère. Le critère, c'est le fait que de considérer que les autres individus animaux sont des êtres sensibles, et je pense que c'est un critère encore plus important que le critère de l'intelligence, en fait.
Ouais, mais je pense que c'est assez facile à comprendre. Hein. Mmh. C'est Lamartine qui disait on n'a pas deux cœurs, un pour les hommes et un pour les animaux. On a du cœur ou on n'en a pas. Et de comprendre que tous ces êtres vivants, ces autres espèces animales peuvent ressentir, c'est assez simple et facile. Ça me dépasse toujours qu'on ait du mal à reconnaître ce pouvoir de qu'ont les animaux comme nous de ressentir, c'est-à-dire comme nous les mammifères dont nous faisons partie ont un cœur, ont un cerveau, ont un système nerveux, un système sanguin. Donc on a en commun un patrimoine génétique avec par exemple les grands singes qui est quasiment le même à 98%. Donc comment nier avoir ce déni incroyable de dire non, mais il n'y a que l'homme qui est capable de ressentir, d'aimer, de souffrir, et les autres animaux, comme disait Descartes, ce ne sont que des animaux machines qui ne ressentent rien. On peut les torturer, on peut s'en servir comme produit, on peut les découper, les manger, les faire vivre dans des conditions de captivité ignobles, à vie, les maintenir en détention, s'en servir pour les expériences, etc. Donc au service de l'homme, mais sans se poser la question de ce que eux peuvent ressentir. Quoi. Mais ça me paraît tellement pourtant évident. Alors je pense que en fait, il y a une poignée, malheureusement, un pourcentage minoritaire de gens qui ont évidemment intégré ça, et puis il y a encore un long chemin à parcourir pour faire évoluer les consciences, parce qu'au contraire on est dans ce déni là qui est cultivé de manière étatique, j'ai envie de dire, depuis des générations, en tout cas depuis des décennies.
Mais puis, pour continuer à pouvoir asservir, il faut nier le fait que ce sont des individus comme nous. Donc la meilleure façon, c'est de maintenir ce déni, c'est ce que vous dites, c'est vraiment le maintenir au maximum.
Mais il y a vraiment une culture, une éducation du spécisme, hein, de cette catégorisation des animaux. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont prêts aussi à reconnaître que les animaux sauvages sont à protéger, qu'il faut protéger les habitats naturels, mais qui ne sont pas capables en même temps d'admettre que le cochon est un être intelligent, plus intelligent qu'un chien, ou au moins aussi intelligent, par exemple. Alors ils vont caresser le chien, ils vont le faire dormir sur le canapé, hein, et ils vont le nourrir correctement, ou un cheval, on peut prendre l'exemple du cheval. Voilà, il y a selon la culture, selon l'endroit où on vit sur la planète, hein, de plus en plus, même si il y a longtemps eu, il y a encore des boucheries chevalines, mais de moins en moins, ça choque aujourd'hui les gens en France de dire que on peut manger du cheval, alors que la plupart des gens aujourd'hui le considèrent comme un animal de compagnie, comme un compagnon de vie, etc. Mais si vous allez en Mongolie, par exemple, moi j'ai eu l'opportunité, la chance d'aller en Mongolie, ils ne font pas de distinction entre le cheval, la vache ou d'autres animaux domestiques, puisqu'ils les mangent tous aussi bien les uns que les autres. Hein. Donc en Asie, vous prenez en Chine, ça leur pose pas de problème de manger des chiens. Mmh. Voilà, nous ici, ça nous choque. Nous ici, ça nous choque, mais c'est toujours un problème de
culture. Oui, par contre, ça choque pas les gens de manger une vache ou de manger un cochon. Par contre, alors que ce sont des êtres vivants, au même titre.
Ici, ça choque moins de gens de manger un cochon si vous dites je mange du chien, alors qu'en Asie, ça ne choque pas les gens. Donc, c'est toujours complètement arbitraire, et c'est toujours avec un angle spéciste, vraiment, et où on catégorise les animaux. Il y a ceux qu'on a le droit de manger parce que c'est comme ça, ça a toujours été comme ça. Voilà, un cochon, ça se mange, et un chien, ça se caresse. Bon, voilà, c'est totalement arbitraire. Alors que ils sont l'un comme l'autre autant capables de ressentir et de souffrir que l'homme, que l'être humain, quoi. Donc, mais ça, on est dans le déni total. Oui. Donc, moi, j'ai de leçons à donner à personne, mais j'aimerais que mon travail participe un peu à éveiller les consciences, à faire réfléchir, et comme vous dites, peut-être à élever un peu, l'humain vers quelque chose d'un peu meilleur. Quoi. Oui. On ne peut qu'en sortir grandi, hein, de prendre en considération le bien-être animal. Quoi. L'être humain ne peut qu'en sortir grandi. Quoi. Je veux dire, quelle civilisation a régressé intellectuellement et même socialement en se montrant bienveillant à l'égard des autres, quoi, que ce soit d'autres nations ou d'autres espèces. Pour moi, c'est la même chose. Donc, voilà, on ne peut que sortir grandi à être bienveillant à l'égard de tous les êtres vivants qui peuplent cette planète, quoi.
Ouais.
Tout simplement.
Ouais. On va faire d'abord une pause musicale, après on reviendra sur un autre thème que j'aurais aimé aborder avec vous. On fait juste une petite pause et on revient tout de suite après sur un thème qui rejoint ce dont on est en train de parler.
À se changer en roi, à hurler à la lune, à traquer la fortune, tout ça pour traîner son poids.
Bien sûr, CFM Radio, dans l'émission Combien de temps encore, et on reprend donc notre entretien avec Laurent Baheu. Alors, au niveau des, je voudrais qu'on prenne un thème qui nous ramène à la notion de respect du vivant. Au niveau des zoos, par exemple, et ce qui va m'amener au thème suivant.
Donc, vous avez décidé de choisir des sujets qui fâchent.
Vous avez envie de mettre en colère. Ce sont tous les sujets de la cause animale fâche. Donc,
ouais, en général, ça laisse pas grand monde indifférent. Mais il y a vraiment les pour ou les contre, et souvent qui s'affrontent dans une vision un peu opposée.
Mais c'est vrai que tous les thèmes sont importants. Que ça soit de l'expérimentation animale, qui en plus alors est en plus exploité avec des prétextes de bien voilà bien pensants et mais même voilà des causes qui pourraient sembler plus faciles à défendre comme le cirque ou les zoos où là franchement moi pour moi le prétexte de l'utilité n'a aucune valeur mais c'est vrai que l'expérimentation animale très souvent alors on part sur l'utilité etc mais si on prend un thème qui serait quand même beaucoup plus simple à quand même à une exploitation qui serait vraiment une des plus simples à abolir ces animaux dans les cirques ou même dans les zoos. Voilà, je pense qu'on peut pas accepter de maintenir en captivité un individu par rapport aux zoos durant toute sa vie, de lui enlever sa liberté pendant toute sa vie juste pour que quelques personnes viennent passer quelques minutes de leur vie pour venir voir un lion, un tigre ou un ours. Les zoos ne sont pas une solution éthique à la disparition de nombreuses espèces. Ils maintiennent en captivité des individus. Donc si je parle des zoos, c'est parce que comme vous êtes photographe animalier et que vous côtoyez des animaux sauvages, c'est pour ça que je reprends ce thème en particulier. Et qu'est-ce que vous pensez de cette espèce de comment dire de mouvement qui semble un peu se profiler, qui moi me semble assez intéressant, c'est la notion de réensauvagement. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train là de peut-être, j'espère, de prendre forme. Alors il y a eu Yellowstone, mais il y a visiblement des projets de réensauvagement en Europe, même à petite échelle. Donc voilà, c'est cette notion de redonner son espace à la faune et à la flore et où l'homme se retire et où il y a où il y a plus d'intervention humaine du tout. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qui est en train de...
Oh, là, vous avez mis le doigt sur un sujet qui, moi, me tient vraiment à cœur. C'est-à-dire que moi, je ne peux que adhérer totalement et je soutiens totalement toutes ces initiatives-là. En relayant les informations, en soutenant financièrement dès que je peux ce genre d'initiative et ce genre d'association. Je pense notamment par exemple en France à l'ASPAS qui a eu un remarquable projet qui a abouti de réensauvager et de racheter 500 hectares de vie sauvage dans le Vercors. Ouais. En plus, en les prenant un territoire qui était destiné à la chasse, quoi, une réserve de chasse, quoi. Donc, j'applaudis doublement, quoi. Si j'avais quatre mains, j'applaudirais de mes quatre mains. Et je ne peux qu'encourager ce genre d'initiative. Et ça me donne même envie, moi, de vraiment initier ce genre de projet, parce que on a tellement montré qu'on est aujourd'hui. Dans l'état actuel des choses et de la manière dont on se comporte avec le vivant, on a montré notre incapacité à cohabiter avec la vie sauvage et notamment avec les grands prédateurs. C'est-à-dire que on voit ce qui se passe dans les Pyrénées avec les ours, on voit ce qui se passe dans les Alpes ou ailleurs avec les loups, on voit ce qui se passe avec le lynx dans les Vosges. Où j'ai vu encore hier un lynx qui a été abattu par une arme de chasse braconnée. Alors quand on sait à quel point il reste peu d'individus de l'espèce représentant en France, voilà. Donc, moi je suis évidemment à fond pour ce genre d'initiative parce que je pense que c'est la seule moyen de préserver et de laisser tranquille. C'est Théodore Monod qui disait les animaux ne demandent pas qu'on les aime, ils demandent qu'on leur foute la paix. Oui. Quoi. Mais voilà, je crois qu'on en est arrivé à un point où et c'est exactement ça, c'est-à-dire que puisqu'on se montre incapable de cohabiter pacifiquement avec toutes ces espèces sauvages, parce que même que quand on a des espèces sauvages sur un territoire, aujourd'hui, il n'y a plus de nécessité de chasser pour se nourrir, je veux dire, qu'on épargne ça, quoi. Ou alors, ce sont des chasseurs de viande en barquette emballée dans les supermarchés. Mmh. Mais voilà, donc on n'a plus besoin de chasser l'animal pour se nourrir. Donc aujourd'hui, on est sur une chasse de loisirs, dont on sait qu'elle détruit la faune sauvage et la biodiversité, sans compter la pollution au plomb, etc., les nuisances. Enfin, je veux dire, c'est C'est un carnage, une tyrannie permanente. Ouais. On met sous pression, remplacer tous ces animaux sauvages qui sont chassés à longueur d'année, dont on fait des battues, qui sont classés nuisibles. Je pense au renard, par exemple, qui rend pourtant des services incroyables à l'homme et aux agriculteurs, etc. En chassant tout un tas de rongeurs, mais non, les chasseurs le classent nuisible pour se divertir et faire des battues, quoi. C'est hallucinant, moi. Je n'ai de cesse de dénoncer ça. Qu'on foute la paix aux ours dans les montagnes, parce que ils ont autant le droit d'être ici que l'homme, voire plus.
C'était
même avant nous, hein.
Tout à fait.
Et c'est pareil pour le loup, quoi. Et là où il y a des grands prédateurs, c'est un signe de bonne santé du milieu, quoi, de l'écosystème. Donc laissons ces prédateurs revenir. Hein. En plus, le loup, il s'agit même pas d'en réintroduire. Il revient naturellement. Il est en train de reconquérir le territoire dont on l'avait fait disparaître, quoi, à force de le chasser, Donc oui, non, là, je ne peux qu'adhérer à ça, et je continuerai d'encourager toutes ces initiatives-là de réensauvagement. Oui, c'est pour moi actuellement la seule et l'unique solution pour retrouver un peu de biodiversité et protéger toutes ces espèces.
Et à Yellowstone, en parlant du loup, déjà il n'y a jamais de surpopulation au niveau des loups, parce qu'il y a une autorégulation par rapport à la nourriture qui est disponible pour eux, au gibier. Et à Yellowstone, quand ils ont commencé, je crois que c'est dans les années 90, mais je dis peut-être des bêtises, et il n'y avait pas de loup. Et donc ils ont commencé ce projet de réensauvagement, de laisser tout cet espace. Et ils ont réintroduit les loups parce qu'il y avait trop de cerfs, de cervidés. Et donc ils ont réintroduit les loups. À partir de là, tout s'est rééquilibré. En fait, c'est le loup qui a rééquilibré le premier projet de réensauvagement de Yellowstone.
Mais ça paraît tellement évident. Partout où on déséquilibre un système, évidemment, si on enlève tous les prédateurs, on déséquilibre le système. Et c'est à ce moment-là qu'on se retrouve en surpopulation pour certaines espèces. Effectivement, donc les chasseurs qui se posent en régulateur de la vie sauvage, comme si la nature n'avait jamais pu survivre sans l'homme et sans le chasseur, quoi.
C'est un prétexte
absolument incroyable de penser ça, quoi.
Personne n'y croit, et
c'est un mensonge énorme. Donc le rôle de la régulation, il n'existe pas, puisque à l'état naturel, la nature s'en charge totalement. Et effectivement, laissons les prédateurs dans leur milieu, revenir dans ces écosystèmes et apprenons plutôt à cohabiter avec eux et à leur laisser de l'espace.
Tout à fait.
Je pense qu'il y a des endroits où l'homme n'a rien à faire, quoi. C'est-à-dire, on veut absolument mettre de l'élevage partout, on voit les ravages que ça fait, que ça engendre. Donc il y a peut-être des endroits, il faut peut-être se poser plutôt la question, il y a des endroits, à mon avis, où l'homme n'a rien à faire. En tout cas, en se comportant de la sorte, je pense qu'il faut laisser des endroits effectivement sans présence humaine, quoi. Sans exploitation de la nature, quoi. Sans chasse, sans exploitation agricole, sans exploitation forestière, parce que on voit toute la destruction que ça engendre, quoi. C'est le profit avant tout. On en touche les limites, on détruit.
Et d'ailleurs, en parlant justement des forêts, moi j'avais eu à cette antenne Gaspard Dalens qui a écrit un bouquin qui est super, qui s'appelle « Main basse sur nos forêts », sur les forêts françaises, ne serait-ce que les forêts françaises. Et c'est ce qu'il explique, on coupe des essences locales, des chênes, des érables, on fait des champs d'arbres, en général du pin douglas, on met des pesticides, parce que là, on a le droit, dans les champs d'arbres, on a le droit. Justement, ça me fait rebondir sur le fait que, au niveau du réensauvagement, il y a aussi, alors, soit des très grands espaces, ça c'est l'idéal, comme le Vercors, ou en Europe, il y a des très grands espaces, je crois que c'est en Roumanie, en Espagne, je crois qu'il y en a un de 100 hectares, c'est pas énorme, mais bon. Et il y a aussi toute une initiative, j'ai l'impression aussi, qui est en train d'émerger au niveau des forêts et des bois, de particuliers qui achètent pas forcément beaucoup d'hectares, mais qui achètent des hectares de bois pour les protéger, justement. Et ça rejoint un peu, hein, le même, c'est dans la même optique que le réensauvagement avec, voilà, avec une superficie importante. Mais il y a aussi tout ce réensauvagement à l'échelle plus petite sur les bois et les forêts. Et ça aussi, c'est intéressant parce que c'est beau. Voilà, c'est à la portée un petit peu de beaucoup plus de personnes.
Et si ouais, on je peut pense rendre... que ça va dans le bon sens. Hein.
Ouais,
ça,
ouais.
Effectivement, toutes ces initiatives-là, il est grand temps, quoi. Parce que effectivement, comme vous dites, un champ d'arbres n'a jamais constitué une forêt. Hein. On dit que oui, on exploite la forêt, mais on replante derrière. Mais souvent, c'est une seule et même essence, quoi. Et puis ça a des fins d'exploitation. Donc voilà, couper la forêt tous les 20 ans pour l'exploiter, pour faire du bois, mais non.
Puis l'érosion des sols, en fait, c'est une catastrophe, quoi, au niveau écologique, c'est une catastrophe, les champs de Douglas, quoi.
Bien sûr. Bah oui, sans se soucier effectivement de l'essence qu'on vient mettre là, de la biodiversité, du fait que ça représentait que la forêt qu'il y avait ancestralement représenté un habitat pour des centaines voire des milliers d'espèces.
Il y a des gens qui replantent, qui achètent des parcelles sans bois et qui replantent avec des essences locales.
Ben heureusement, heureusement qu'il y a ce genre d'initiative, mais c'est à encourager et à élargir, parce que en face, j'ai l'habitude de dire que c'est deux visions du monde qui s'affrontent, quoi. Une majorité, malheureusement, jusqu'à ce que un jour, j'espère, ça bascule. Peut-être qu'il y a une prise de conscience qui s'accélère. J'ai ce sentiment-là.
Moi aussi, j'espère. En camp local, les choses peut-être. Je pense qu'il faut compter que sur nous-mêmes et que sur les initiatives locales, et puis que ça bouge comme ça en local.
Parce qu'on s'aperçoit que le discours politique, malheureusement, il y a le discours et il y a les faits. Hein, et il y a souvent, c'est le grand écart entre les effets d'annonce, entre le discours et en même temps. Hein, le en même temps, d'un côté, on dit mec de planète great again, et de l'autre, on continue de soutenir des projets d'exploitation ultra polluants ou ultra destructeurs dans la forêt ou dans les montagnes, etc. Je ne cite personne, mais voilà, le discours politique aujourd'hui, plus que jamais, il est là-dessus, il est incohérent. Ouais. C'est-à-dire que, enfin, entre le discours et les actes, il y a un monde, quoi.
Parce que ce sont que des discours et qu'en fait, de toute façon, derrière, c'est des politiques économiques qui n'ont aucun respect du vivant. Donc, je pense qu'il faut, les initiatives ne peuvent être que individuelles et locales, c'est-à-dire se regrouper. Et je dirais dans un premier temps, tant que les gouvernements, quels que soient les pays d'ailleurs, ne seront basés que sur des systèmes économiques qui n'ont aucun respect du vivant, et que il faut que ça soit par nous-mêmes et en groupe, en se regroupant, mais à l'échelle locale, faire agir à l'échelle locale. À mon avis, pour l'instant, la solution, elle peut être vraiment qu'à petite échelle. Parce que c'est pas la peine de compter sur. Après, c'est bien d'essayer quand même de faire évoluer les lois et les choses à grande échelle. Mais dans l'action, je pense que acheter des champs, reboiser, faire déjà être sur du local dans l'action en tout cas.
Ouais. Alors après, au sein du politique, il faut quand même souligner qu'il y a des gens qui ont conscience de tout ça et qui cherchent à faire avancer. À la fois la cause animale et la cause environnementale.
Oui, après, si ça peut...
À des gens comme, je ne sais pas si vous connaissez Loïc Dombreval, qui essaye de faire avancer la cause animale et le bien-être animal. Toutes les initiatives sont bonnes à prendre, hein, envie de dire. Chacun à son niveau, effectivement, mais je crois que ça bouge aussi au niveau des politiques et il y en a vraiment qui cherchent à en finir avec le monde d'avant, entre guillemets, là, avec cette logique du tout économique et la recherche du profit coûte que coûte, sans prendre en considération le côté environnemental. Ouais, il y a de l'espoir. Il faut,
oui,
il faut,
après, si ça peut faire évoluer des sociétés entières à l'échelle nationale, tant mieux, hein, je sais pas. Mais voilà, déjà, agir à son niveau, je dirais. Et, ce qui n'empêche pas de, d'espérer des évolutions profondes.
Oui, bah, il faut, parce que, il est temps, et, oui. Après, on, c'est vrai qu'on est, on a été tellement loin dans, dans cette logique-là de, d'exploitation des ressources, qu'on a longtemps cru, ou, en tout cas, qu'on a voulu faire croire, à la population que ces ressources-là étaient infinies et limites, et illimitées, et que, il n'y avait aucune conséquence d'exploiter tout ça, d'exploiter notre environnement, de cette manière-là, que ça ne portait pas à conséquence et qu'il n'y avait aucune destruction. On se posait même pas la question pendant très longtemps. Oui. Aujourd'hui, les gens commencent à se poser cette question-là et on cherche à faire évoluer et les comportements et les modes de consommation. Mais alors, ça va prendre du temps parce qu'on a tellement habitué pendant des décennies les gens à ne pas se poser cette question-là et on les a tellement encouragés à consommer coûte que coûte sans penser à au reste, que effectivement bah, il va falloir d'abord ralentir. Alors on est en, je crois qu'on est un peu en forcé de le faire en ce moment parce que une pandémie nous a un peu forcé à le faire, mais ça serait bien qu'on profite de cette période là pour justement réfléchir à tout ça et repartir sur des bases peut-être un peu plus durables,
morales, oui, éthiques.
Et un peu plus moral et un peu plus durable.
Ouais. On va malheureusement, on va pas pouvoir continuer cet entretien, quitte à le reprendre sur une autre émission, puisque là c'est l'heure qui tourne. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de venir. Et puis, je vous dis merci pour votre travail aussi. Et parce que je pense que oui, voilà, c'est vraiment une façon de faire prendre conscience en profondeur. Je pense que là, voilà, par le biais artistique, je pense que voilà, on peut toucher encore plus en profondeur les gens pour une prise de conscience. Et merci beaucoup, voilà, de votre travail photographique et puis de défendre la cause animale.
Je vous en prie, très touché. C'est moi qui vous remercie de vous être intéressé à mon travail et bonne année à tous.
Ok, à bientôt en tout cas.
À bientôt, merci.
Au revoir.
Au revoir.
Vous pouvez retrouver cette émission en podcast en tapant CFM combien de temps encore. Bonne soirée et au mois prochain.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.